Paroles de compositeur.
L'éternel mouvement circulaire de la musique. Élie Faure, historien d'art français.
Bonjour et bienvenue sur Tropic FM et dans cette nouvelle émission de Résonance. Nous vous invitons à partager le regard vigilant que nous portons à l'égard de ce qui s'éveille sur les initiatives, les éclats, les utopies, les mutations à l'œuvre dans le champ de la création contemporaine et sur ce qui fait que la création vit, bouillonne, se développe au quotidien. Pour cette nouvelle émission, je suis accompagné de Josie Josserand, de Lucien Guérinel et de Simon Deborne à la technique. Voilà, nous voici donc dans cette nouvelle émission, une émission un petit peu particulière puisque dans Résonance et tout au long de cette saison de radio, nous avons choisi, comme vous avez déjà pu vous en rendre compte au cours des émissions précédentes, de varier les différents aspects, d'approcher toutes les questions qui nous intéressent au travers de cette émission. Et aujourd'hui, nous allons la consacrer à deux aspects. D'une part, retrouver l'un de nos correspondants, et en l'occurrence de nos correspondantes habituelles, Amandine Gillet, qui va nous faire quelques échos de ce qui se passe sur Lyon, et notamment autour des partitions graphiques au Musée d'Art Contemporain. Et puis, nous réserverons la majorité du restant de cette émission à découvrir déjà une des formules instrumentales importantes qui a marqué depuis de nombreuses années et siècles même, l'aventure de la musique et de sa création, en l'occurrence le quatuor à cordes. Et nous commencerons aujourd'hui par nous aventurer dans l'univers musical et poétique de Béla Bartok. Donc, on se faisait d'ailleurs la réflexion avec Lucien Guérinel que, justement, dans notre générique qui fait place aux percussions de Tréfort et qui fait qu'aussi nous avons la présence de Louis Clavis, celui-ci, finalement, dans cette improvisation, fait écho à Bartok.
Oui, ça m'a frappé aujourd'hui. C'est le thème enjoué de ce générique musical Louis Clavis s'inspire au meilleur sens du terme.
Au meilleur sens du terme.
Je m'inspire de beaucoup de choses. J'espère que ça donne un résultat. Donc, s'inspire du thème liminaire du troisième concerto pour piano et orchestre de Bartok. Et d'ailleurs, si on avait le 10 sous la main, ça, c'est impromptu. On n'a pas pu calculer ça. Vous le ferez écouter. Vous verriez comment deux personnalités différentes, à des époques différentes, peuvent avoir une induction similaire, comparable. Fraternelle. Cousiné. Voilà, ça m'a frappé aujourd'hui.
Alors nous allons continuer de cousiner et nous allons joindre au téléphone Amandine Gillet qui donc fait partie de ce que nous appelons notre rubrique « Regard d'ailleurs ». Amandine.
Oui, bonjour.
Bonjour. Et bah, content de te retrouver aujourd'hui dans cette émission du mois de décembre, de ce 4 décembre, pour justement continuer à faire écho avec des choses que tu as pu remarquer importantes sur Lyon et qui ont un trait là aussi à la musique, puisqu'on peut parler aussi de partitions graphiques.
Oui, tout à fait. Il y a une très belle expo actuellement au Musée d'art contemporain de Lyon qui s'appelle Cages Satie, Composition for Museum, où il y a effectivement des partitions graphiques qui sont au cœur de l'exposition. Peut-être qu'avant de parler de cette exposition, je peux revenir très brièvement sur le Festival des musiques démesurées.
Et oui, parce que ça, c'est ça, événement important aussi en région, événement important pour l'Auvergne, puisqu'il se passe aussi à Clermont-Ferrand, et aussi parce que c'est un festival maintenant qui s'ancre dans le temps et qui se pérennise justement.
Et oui, c'est devenu un rendez-vous récurrent du mois de novembre. Et cette année, le thème était justement John Cage. Donc c'est vrai que c'est l'occasion de mettre en relation ces deux événements, un à Lyon, l'autre à Clermont-Ferrand.
Et on sent bien que, puisqu'on fête John Cage sous de multiples manifestations aujourd'hui, donc enfin au cours de cette année 2012 en France, hein, et que donc différents lieux et diffuseurs, festivals, musées, effectivement accordent en tout cas des regards différents ou des aspects justement différents sur John Cage.
Voilà, et chacun a fait son propre choix effectivement, puisque là, déjà rien que sur ces deux exemples, on va voir que les approches sont pas du tout les mêmes selon les personnes qui assurent la programmation. Donc là, bah, pour revenir sur le Festival Musique Démesurée, je vous avais déjà un peu parlé sur cette antenne de la programmation du festival.
Tout à fait.
Et donc j'ai assisté au festival. Et bah, moi, j'ai eu un petit coup de cœur sur l'interprétation de Bernard Faure du Discours sur Rien. C'est vrai que ce que j'ai apprécié dans cette version française du Discours sur Rien, c'est que bah, malgré la traduction, on retrouve quand même l'esprit du texte. Alors déjà parce que Bernard Faure a énormément retravaillé le texte français avec l'aide d'un traducteur américain, même s'ils sont partis de la traduction que tout le monde connaît, qui est dans l'ouvrage Silence, ils ont quand même retravaillé encore cette traduction. Et ils commencent à avoir un petit peu l'habitude de tester le texte, puisque ça fait maintenant 3 ans qu'il interprète le Discours sur Rien suite à une demande d'une école d'art. On lui avait demandé de faire une conférence finalement sur John Cage et il s'est dit que le sujet était tellement vaste que finalement, plutôt que de se lancer dans un exposé, eh ben, interpréter le Discours sur Rien, c'était une bonne entrée
en matière.
Voilà. Et comme il a vu que ça avait bien fonctionné, eh ben, il a continué à travailler son interprétation et il la redonne régulièrement. Voilà, depuis 3 ans. Et c'est vrai que le choix qu'il a fait, contrairement à d'autres versions qu'on a pu connaître, c'est d'enlever tout l'aspect théâtral. Il y a certaines personnes, contrairement au choix...
accentuer l'aspect théâtralisation.
Voilà, contrairement au choix originel de John Cage,
c'est ce que j'allais dire.
Voilà, avait introduit un aspect théâtral, et lui, pas du tout. Il est vraiment resté sur un minimalisme absolu. Et il parle même d'une recherche de la valeur rien. Vraiment, pour lui, c'est voilà, il faut rester dans cet esprit originel. Et pour quand même introduire tout un univers sans passer par le visuel, eh bien lui, il a choisi la rythmique. Et finalement, même s'il emploie un ton de la conversation, eh bien il bat la mesure avec ses mains.
D'accord.
Et finalement, sa manière de parler se cale aussi sur ses gestes qu'il peut avoir. Et c'est quand même différent, du coup, du ton monocorde que pouvait avoir Cage. On rentre dans une interprétation, mais qui n'a rien de théâtral, qui est vraiment une gestuelle musicale. Voilà,
il essaye de rejoindre finalement à la fois la gestuelle musicale, la gestuelle de la parole aussi, puisque chacun est emprunt aussi, dès que la parole se tisse, s'émet à avoir sa propre gestuelle finalement.
Voilà.
Et il la réinscrit aussi avec finalement cette manière de mentionner le temps, en tout cas le déroulement du temps, d'inscrire aussi sa parole dans ce mouvement.
Voilà, tout à fait. Et c'est son parti pris.
C'est son parti pris.
D'interprétation. Mmh. Sachant qu'effectivement, la contrainte de base, c'était le passage déjà du français à l'américain, en sachant que la métrique des deux langues n'est pas la même.
N'est pas du tout la même,
bien évidemment. Et pour autant, il réussit quelque chose qui fonctionne, quoi, finalement, puisqu'on arrive vraiment à profiter de cette version en français.
Et donc, ce soir-là, à Clermont-Ferrand, un public nombreux à ce moment-là ?
Oui, vraiment un public très nombreux. Alors également parce que c'était dans le cadre de la soirée hommage à John Cage. Donc c'est vrai que il y avait cette interprétation est intervenue en cadeau à la fin de la soirée.
D'accord.
Et avant ça, il y a eu un échange entre Bernard Faure, Jean-Yves Bosseur et les Quenin. Donc un échange.
Voilà, Jean-Yves Bosseur aussi qu'on connaît bien en tant que musicologue, compositeur aussi également,
voilà.
Et puis qui a écrit de nombreux ouvrages sur la musique contemporaine, sur aussi Cage aussi,
voilà,
et sur le geste aussi, et l'écriture gestuelle, l'écriture graphique, le rapport aussi écriture musicale, peinture, ce qui peut peut-être permettre de faire le lien avec l'autre aspect finalement sur Lyon et le musée d'art contemporain, toujours autour de l'univers de Cage. Et...
Oui, tout à fait. Donc, dans l'idée de cette année Cage, puisqu'on fête cette année le centenaire de sa naissance, voilà.
Ouais.
Eh bien, le musée d'art contemporain de Lyon a souhaité inventer une exposition autour de Cage. Mmh. Et donc, c'est Thierry Raspail, le directeur du musée d'art contemporain, qui a fait appel à Laura Kuhn. Pour créer donc Laura Kuhn qui est commissaire de l'exposition mais qui est directrice du John Cage Trust de New York.
De New York, oui.
Voilà, et qui a travaillé avec John Cage de 86 à 92, donc qui est quand même quelqu'un de proche de son esprit.
Mm-hmm.
Donc Thierry Raspail a fait appel à Laura Kuhn pour inventer alors il appelle ça une forme concertante.
Mm-hmm.
Donc concertante avec un jeu de mots sur le
concert
bien
oui.
évidemment, mais qui excède la temporalité d'un concert, car on est bien dans une expo et pas dans un concert, et en même temps, il refuse le principe d'exposition d'objets, pour parler de Cage, et on peut pas tellement parler non plus de regard sûr.
De regard sûr.
C'est encore pas ça non plus, c'est vraiment une forme sonore et visuelle très particulière,
qui invite un peu comme ça le visiteur à se laisser aller à la fois par ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qui...
Oui, voilà, tout à fait. On rentre finalement dans... Alors, c'est pas une seule partition, c'en est plusieurs, mais on rentre dans cet univers. Alors, l'exposition s'appelle Cage's Satie, Composition for Museum. Donc, c'est le Satie de Cage, littéralement, composition pour un musée. Et finalement, cette exposition, elle se compose, oui, comme un morceau de musique.
Comme un morceau de musique.
Alors, sur deux étages. Il faut savoir que ça occupe deux étages du musée d'art contemporain, et il y a quand même deux aspects un peu différents dans cette exposition. Alors déjà, au premier étage, l'œuvre de Cage se déploie sur l'intégralité de l'étage. Avec donc différentes pièces musicales qui dialoguent avec des reproductions de partitions, des poèmes, des notes, même des dessins de Cage.
Oui.
Et il y a des vidéos de chorégraphie de Mercy Cunningham.
Oui, la autre grand partenaire aussi de John Cage.
Donc tout ça est présent au premier étage, et c'est une sorte de composition qu'on pourrait dire aléatoire et spatialisée, qui réunit plusieurs morceaux de Cage, écrit à partir de l'œuvre de Satie, parce que n'oublions pas que là, c'est Satie qui fait le lien entre toutes les œuvres. Donc il y a cet univers très particulier au premier étage, qui finalement symbolise l'hommage que rend Cage à Eric Satie tout au long de sa vie.
Oui, puisque là, il y a aussi des liens très étroits, en tout cas, vis-à-vis de tout l'univers musical, aussi d'Eric Satie.
De la part de John Cage, tout à fait. Et au deuxième étage, il y a ce qu'on appelle The First Meeting of Satie Society, donc l'une des dernières œuvres de John Cage, qui est exposée dans un environnement qui rappelle vraiment les environnements qu'appréciait Cage, c'est-à-dire un environnement très minéral et végétal. Donc il y a vraiment une recherche au niveau de la décoration, on va dire, de cet étage. Ils ont voilà, ils ont fait des choix de couleurs, des choix de voilà, il y a un jardin zen, il y a ce genre d'ambiance quoi, pour vraiment être plongé pleinement dans cet univers. Mm-hmm. Mais ce deuxième étage, il est découpé donc en deux parties, ah, oui. Puisqu'il y a une seconde salle où est présentée une pièce radiophonique qui est intitulée James Joyce, Marcel Duchamp, Eric Satie, mm-hmm. Un alphabet. Donc qui date de 82.
D'accord.
Voilà, pour laquelle Michel Rouse a créé une version qui requiert la participation du public.
Du public.
Donc c'est un peu l'occasion voilà de rentrer dans une exposition
un petit peu participative.
Voilà, un petit peu participative. Et dans un couloir, on trouve quand même quelques objets, même si c'était pas l'objet de l'exposition justement, mm-hmm. mais quelques souvenirs personnels
de John Cage
qui sont liés à Satie.
Donc voilà deux rendez-vous en tout cas à distance, en tout cas avec cette exposition qui dure jusqu'à la fin de l'année, hein, si je ne me trompe.
Oui, alors qui dure jusqu'au 30 décembre.
Jusqu'au 30 décembre. Voilà. Donc, cher auditeur, voilà, il vous reste encore quelques semaines et quelques jours pour découvrir finalement toute cette exposition. Et puis, de voir aussi que certains festivals, comme celui des musiques démesurées à Clermont-Ferrand en novembre, consacraient également un temps important à l'œuvre de John Cage pour célébrer donc le centième anniversaire de la naissance du compositeur américain.
Voilà.
Eh ben merci beaucoup Amandine en tout cas pour ce regard d'ailleurs.
Oui.
qui viennent en tout cas bien alimenter nous aussi notre émission régulièrement. Et là nous allons plonger dans un autre personnage important. De la musique, là qui entre John Cage d'un côté et là maintenant ça va être avec Béla Bartók, mais là aussi une des figures très importantes aussi de l'écriture et de la vie musicale. À très bientôt Amandine en tout cas.
Oui, à très bientôt.
Merci encore.
Au revoir.
Au revoir.
Thank you.
voici, cher Lucien, une belle entrée en matière pour percer et s'aventurer là sur les pas de Béla Bartók. Béla Bartók, si on veut le resituer aussi un tout petit peu à travers la temporalité et justement sa vie, né en 1881 et il disparaît en 1945. Donc là aussi, on voit que ça s'étend sur une longue période aussi, marquée par de nombreux événements dont on va pas, bien sûr, au travers de notre propos de cette émission, retracer toute la chronologie et toute la tout ce qui est autour du parcours artistique de Béla Bartók. Mais un, l'écriture pour quatuor à cordes, parce que là, il y a une espèce de filiation, si on pense à, bien sûr, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mahler, etc. Et donc, cet attrait des grands compositeurs a une forme très spécifique de la musique de chambre. Et donc, Bartók, lui aussi, investit aussi ce domaine-là. Et en même temps, dans cette écriture pour quatuor à cordes, s'intéressait quand même à une période un petit peu qui est plus proche, finalement, de la fin de sa vie, finalement.
Oui. Moi, il me semble que ce que l'on peut dire de Bartók, beaucoup de gens ont dit sur lui, donc que vais-je faire? On dira un tout petit peu plus ou pas davantage. Quoi qu'il en soit, on est là pour parler de Bartók. Et puis, après ce que nous venons d'entendre, je crois que c'est le langage.
Avant tout.
Il a un langage, il a une voix, il a une personnalité, il est lui-même. Et il est très remarquable que ce Hongrois n'ait pas tendu l'oreille vers ses voisins immédiats, autrichiens et les célèbres, qui ont fait l'école de Vienne.
Qui ont fait toute l'école
c'est
de Vienne.
C'est très remarquable, ça. S'il ne les avait pas écoutés.
Il a su rester sur une ligne
mais
identitaire.
Il a fait toute autre chose. Ouais, il est resté dans sa terre, la terre hongroise, dont on a dit beaucoup de choses de bien ou de tordu, je ne sais pas. Enfin, on n'est pas là pour discourir de ça. Mais en tout cas, c'est une terre très particulière. Et il est resté dans cette terre qui est la sienne. Et d'ailleurs, dans le premier mouvement que nous avons écouté, il est très remarquable de voir comment il dépose des strates musicales, comme ça, donc des couches immobiles.
Immobiles, comme
et
ça.
Et puis,
ouais.
Une voix s'élève. Ce sont des appels, en continu, des appels,
oui,
des échos. Donc c'est un musicien cosmique, c'est pas un grand mot, c'est cosmique, c'est le cosmos, c'est l'univers, c'est la vie.
C'est la vie,
quand
oui.
on regarde un paysage, surtout quand on le survole par avion, par exemple, où on peut brasser rapidement des aspects différents, on sent qu'il y a toutes ces correspondances, et qui sont la terre, qui sont la nature, et sa musique, elle s'imprègne là-dessus. On dirait presque que les chants qui se lancent, qui, au-dessus de ces strates dont je parlais, sont comme des plantes qui pousseraient un peu comme dans le cinéma accéléré où on voit les fleurs s'ouvrir.
Je les vois surgir de seul coup.
Ça me fait penser à ça. Bon, c'est une image, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais quoi qu'il en soit, il y a.
Non, mais on sent un ancrage, en tout cas, dans une culture, une manière.
Voilà, il y a tout ça. Et puis, bien entendu, le tempérament. On voit tout de suite, on entend tout de suite ce qu'est cet homme, comment il s'est joué avec les scherzo et le langage particulièrement habile, très volubile, très discursif. Et puis,
et en même temps, qui rappelle bien à la fois quelquefois certains aspects de la culture populaire, avec toutes ces petites dissonances,
complètement. C'est de la culture populaire qui a été évidemment,
bien sûr,
avec son collègue Kodály, un des titres de gloire de leur action en Hongrie. Et mais dans le chant populaire, par exemple, qu'il a transcrit avec Kodály, c'est un autre homme. Il reste Bartók,
mais c'est un autre homme. Qui se positionne différemment. Ouais,
bon, le quatuor, évidemment, est une forme qui est réputée tellement austère, tellement supérieure. Bon, on en reparlera de ça. Mais il fait autre chose, bien sûr. Puis à chaque formation instrumentale, ça a sa nécessité. Mais voilà, on peut pas. Et puis quand il. On a écouté un mouvement lent, qui n'est peut-être pas le plus représentatif, mais quand même. Et le ton qui est toujours à la mélancolie, qu'on retrouvera dans beaucoup de ses œuvres, et jusque dans le Château de Barbe Bleue. Et ça, c'est sa marque, pas de fabrique, mais sa marque personnelle, son idiosyncrasie, c'est Bartók entre mille. Et puis, après, il y a la virtuosité instrumentale.
complètement.
Qui est manifeste.
Là, c'est le quatuor Weigl, en plus.
J'ai parlé dans une autre émission de non-vieillissement de la, du ballet
de Stravinsky.
Sacre du printemps de Stravinsky. On peut dire exactement la même chose de Bartók.
De Bartók.
C'est une musique qui reste ce qu'elle est, qui ne bouge pas. Il peut se passer des tas de choses dans l'histoire après qu'elle n'en, elle ne prend pas le coup de vent.
Complètement.
Elle ne prend pas le coup de
vent. On sent toujours cette même vitalité.
C'est une leçon musico-sociale. Parce qu'il faut aussi parler des choses comme ça. Parce qu'il y a les commentateurs qui parfois nous agacent un peu. Et qui, enfin, ils n'oublient pas, mais c'est ça. Ce sont des musiques qui ne bougent pas parce qu'elles sont comme le Parthénon.
Elles sont vraiment ancrées. Elles, voilà, sont, elles sont sur une ligne de force.
Si on pourra faire tout à fait des choses différentes là, dans, dans le 21e siècle, que ça n'enlèvera pas. Comme les quatuors de Beethoven. Comme ceux de Haydn.
Comme ceux de Haydn.
83 quatuors, 83 chefs-d'œuvre. Haydn. Bon, ça ne bouge pas, ces musiques-là. C'est l'essence supérieure. Donc, Bartók est dans la haute, évidemment, tradition, dans la haute mémoire de ces choses-là, tout en faisant
autre chose, bien évidemment.
Sûr. Mais l'esprit reste
Reste le même.
L'intelligence reste la même et la sensibilité, bien entendu. Donc, pour moi, ça a été un rappel. Il y avait longtemps que je n'écoutais pas ces voitures de Bartók. Pour moi, c'est l'enchantement.
Voilà. Et puis là, servi admirablement aussi par l'un des grands quatuors aussi.
Le quatuor Weigl, puisqu'il s'agit de lui. Ça aussi, il y avait longtemps que je n'écoutais plus le quatuor Weigl. Je trouve cet enregistrement miraculeusement beau. D'abord par la qualité sonore.
Qualité sonore, oui,
déjà,
bien sûr.
Pour commencer. Et puis par la qualité d'interprétation.
Ils sont plus que remarquables.
Alors, excusez-moi pour le mot, aucun esbrouf.
Complètement.
Aucun esbrouf, parce qu'avec Bartók, vous pouvez
aussi
faire de l'esbrouf. À ce moment-là, c'est plus Bartók.
Mais c'est plus Bartók.
Bartók, c'est le contraire d'un esbrouffeur. Hein. Bon, et le quatuor Weigl est là dans la ligne absolue de cet homme.
Juste là où il faut.
C'est une splendeur. Puis instrumentalement, c'était absolument irréprochable. Alors, on a eu un exemple, là, je m'amuse un peu. On a eu un exemple de ce qu'on appelle... On appelle encore aujourd'hui, qu'on appellera toujours, le pizz à la Bartók. Alors, le pizz, c'est le pizzicato, qui est un mode de traitement des cordes qu'on connaît à travers toute l'histoire de la musique, bien sûr, depuis l'âge classique. Mais Bartók, lui, il a inventé un pizz à sa façon, que vous avez entendu là dans ce
truc,
qui est une espèce de claquement
de la
corde et qui. Et
on l'a bien entendu toutes les réponses, justement, entre les différentes
voilà,
parties.
Voilà, et il utilise en même temps les pizzes ordinaires. Et les pizzes au Bartók. À sa manière, qu'on appelle aujourd'hui les pizzes à la Bartók.
Voilà. Il a marqué en même temps
l'écriture
et la manière de jouer.
C'est une invention.
Complètement.
Et elle vaut. Elle vaut. Parce qu'elle
est utilisée. Parce qu'elle persiste de plus en plus aujourd'hui et de tas de musiciens l'utilisent. Alors nous allons poursuivre justement la découverte, en tout cas continuer de glisser nos pas dans ceux de Bartók. Et nous allons découvrir. Voilà, d'autres extraits d'un autre quatuor, le quatuor numéro 5.
Thank you. Thank you.
Eh bien, voici, après cette émotion intense, parce que c'est difficile de, là aussi, de reprendre la parole derrière, mais bien obligé, puisque notre émission arrive à son terme, mais tout simplement pour dire aussi que nous allons poursuivre, au travers, vous savez, chers auditeurs, que nous vous créons des nouveaux rendez-vous au travers de cette émission, que nous vous, allons vous proposer différentes émissions tournées autour du Quatuor à cordes, et nous vous réservons de belles surprises, je pense, sur des quatuors qu'on n'entend pas, des compositeurs que peut-être on n'a pas, auxquels on n'a pas suffisamment donné la place, bien souvent. Donc voilà, restez donc dans la continuité de cette émission, en tout cas, et après cette belle période de Bartok où je voulais rappeler que, puisqu'on avait dit que c'était plutôt sur la fin de sa vie, et que donc le quatuor numéro 4, dont nous avons entendu tout à l'heure 3-4 extraits, c'était 1928, et la dernière chose que nous venons d'entendre, c'est 1934. Donc là, on voit aussi toutes les tensions. Enfin, on peut y sentir aussi plein de choses d'une époque aussi, mais encore tout ce qu'on disait là tout à l'heure, cette entièreté finalement, si je peux mettre ce terme finalement, de qu'est Bartok et ancré de là où il est en tant qu'homme aussi, avec sa mouvance, sa pensée très fortement impliquée. Et là, quelle démonstration.
Oui, je suis tout ému de dire que j'avais 4 ans quand ce quotidien.